Léon Cladel, quelques cires, Égypan. Vers l'avril, il y a déjà près d'un quart de siècle, un paysagiste, alors orné de l'une de ces chevelures dont eussent été fiers les jeunes France célébrés par Théophile Gautier, leur maître à tous, et non moins chauve aujourd'hui que le plus cancre de ces philistins qu'ils abhorraient eximaux, fut surpris par la nuit dans les montagnes du Rouergue, où toute la journée, assis sous un saule ombellé comme un parasol, il avait tenté d'ébaucher un site vraiment classique, lui rappelant plusieurs des 22 toiles dont se compose la vie de Saint-Bruno, peinte par cet Eustache le Sueur, qui selon ses biographes mérita le surnom de Raphaël Français. Imaginez une gorge farouche et déserte entre deux longues chaînes de broches aussi trouées que des madrépores, d'où s'échappe, en plaintive cascatelle, maintes sources qui se réunissant au fond d'une étroite vallée, y forment un torrent très impétueux, au bord duquel croissent pêle-mêle toutes sortes d'herbes vivaces. Sur l'une des deux parois, presque à pic, séparée par la ravine, un manoir ruiné se profilait parmi les plantes aromatiques, thym, menthe ou fenouil, et sur l'autre, les feux obliques du couchant avivaient les mousses mortes couvrant le chaume d'une sorte d'ermitage légendaire, dont le dernier hôte, quasi centenaire, un sieur Franculas, décédé sous la Restauration, en odeur de sainteté, n'avait jamais eu de successeur. Ici, ma foi, l'on est bien, puisque j'y suis, j'y reste. Et le disciple de Millet, des Corot, des Treuillon, des Dupré et des Courbet, après avoir enfermé dans sa boîte à couleurs sa palette et ses pinceaux, ne se sentant pas la force de regagner l'auberge dans laquelle il logeait depuis quelques semaines, à l'orée d'un hamour forestier 6 à 4 ou 5 kilomètres de là, eut vite pris son parti. « Oh, le gazon frais est temps de me servir de lit et la ramée de toit. Il y a dans mon bissac un chamon de pain, lisse la moitié d'un saucisson, une demi-bouteille du cru, des fromages secs, un flacon d'eau de vie de mare. Cordieu, vraiment voilà plus qu'il ne m'en faut pour attendre en Sybarite la nouvelle aurore et même la prochaine vesprée. » Or, étant installé tranquillement entre des haies, il attaqua ses provisions et, dès qu'il se fut ravigoté, bourra sa pipe en racines de bois et fuma du caporal, les yeux emplis des agrestes et sauvages splendeurs de la nature ambiante qui s'éteignait peu à peu. Quel chic, quel garbe, tout ça, nom d'un chien! Ayant vu se coucher le glorieux soleil en des îlots flots de pourpre et d'or, puis se lever la benoîte lune dont la lumière diffuse argentait les crêtes des monts et les abîmes des combes, il se disposait à ronfler sous la caresse des brises et le regard des étoiles, lorsqu'il ouït à sa droite les gammes filantes et chromatiques d'un pipeau. « Mais dormir en musique, une vraie chance, oui, mais Kazako !» Se haussant sur les coudes et tendant la tête, il aperçut un troupeau de chèvres conduites par un barbet et qui, descendu des rampes, s'apprêtait à franchir l'eau sur un tronc d'arbre. Au loin, à travers les fougères, sonnaient des pas précipités. Après le bétail, le chien et puis le pâtre. C'est dans l'ordre établi depuis le commencement. Il n'acheva pas et se redressa très étonné. Parmi le clair-obscur, il avait distingué, tout au bas des pentes, une ombre singulière qui bondissait avec une rapidité vertigineuse sur les blocs de basalte chus du faîte des buttes, et ce fantôme en atteignit un autre, plus léger, arrêté dans sa course par un obstacle imprévu. Puis se produisit un craquement d'étoffe suivi de cris aigus et les rayons des astres frappèrent un envolement de voiles dispersées. Était-ce un satyre et sa proie une nymphe? Y avait-il donc encore des faunes et des dryades dans cette contrée, et le vieux Pan existait-il toujours? Se croyant le jouet de son imagination, évoquant malgré lui les êtres dont étaient peuplées les campagnes antiques, auxquelles ressemblait en quelque sorte ce paysage dont il était environné, l'artiste frottait les yeux. Une plaine déchirante lui prouva qu'il ne rêvait point, et voici qu'il reconnut une blanche épigée entre les bras velus du chèvre-pied, qui, l'ayant emporté vers une fissure oblongue béante à la base de l'une des deux montagnes, s'y engouffra violemment et disparut avec sa victime, ce noir ravisseur. Ah, par exemple, ça c'est trop fort et j'en suis bleu. Bouleversé par cette vision, lui, si brave, nullement superstitieux, et que n'avait jamais hanté les souvenirs mythologiques dont il se moquait naguère avec ses camarades d'atelier, le peintre trembla durant toute la nuit, et dès l'aube, tout son courage lui étant revenu, il explora les alentours. Aucun indice de rapt, aucune trace des spectres nocturnes. Seulement, à l'extrémité du pertuis, il découvrit, au milieu d'un taillis, une houlette brisée en plusieurs morceaux, et plus loin, une agrafe à laquelle adhéraient les lambeaux de toile écrue, pareille à celle dont se vêtent en la belle saison les terriennes des environs. Enfin, sur le seuil de la grotte, il trébucha contre un sabot ennoyé trop petit pour le pied d'un homme, et même pour celui d'une femme mûre. Il voulut, mais ne put, entrer dans la crypte qui s'ouvrait devant lui. Des âniers, qui passaient avec leurs bêtes, de rudes mules de catalane, chargées de sacs de farine, l'avisèrent qui se demandait debout à l'origine de la caverne si, dans cette région occupée jadis par les rutènes, il y avait aussi des troglodytes. « Oui, gars, Jean, est-ce que quelqu'un habite ici, par hasard ?» Au lieu de répondre, ils se signèrent de haut en bas à diverses reprises, et ce n'est que de très loin que l'un d'eux, épouvanté, cria « Dieu vous garde, écartez-vous de là, c'est le trou des esprits !» Il se retira, fort préoccupé. De retour au village, il questionna d'abord divers artisans, à peine moins illettrés, que les rustres du district, et qui cependant tombèrent des nus après s'être ébaudis de son aventure. Ensuite, quelques bourgeois, assez érudits, entre autres le pharmacien de la localité, membre de plusieurs sociétés savantes, auteur de brochures appréciées des antiquaires et des historiens de la province, ex-vice-président des comités d'apiculture et de taxidermie, etc., etc. Les admirateurs de l'apothicaire et ce phénix lui-même, le prenant pour un fou, l'engagèrent ironiquement à consulter l'aigle du sud-ouest, un certain bibliophile de Rodez qui savait sur le bout du doigt tous les faits et gestes de la Guyenne, de la Gascogne et de tout le Midi, depuis la création de notre ère, inclusivement. Très mécontent de son enquête, et d'ailleurs médiocrement flatté d'être en butte à la fausse commisération de ses villageois aussi sots que narquois, il ne souffla plus mot de ses prétendues lubies. Le Parisien, et tout en maugréant en son fort intérieur, il continua, comme devant, à brosser par monts et par vaux les innombrables beautés de leur âpre et magnifique pagérie. Oui, mais, soit en amont, soit en aval du torrent tueux et sinueux Aveyron, au bord des gouffres ou sur les airs, ici, là, partout et toujours, il n'en fut pas moins harcelé par le souvenir de l'étrange apparition au cours de cette nuit par lui passée en plein vent, tantôt admettant que ses sens l'avaient induit en erreur, et tantôt concluant au contraire qu'il ne l'avait nullement abusé. Le hasard enfin eut pitié de ses tannantes incertitudes, et l'en débarrassa. Son sac sur le dos et son épieu à la main, il dévalait un soir le pic de Jéhul, lorsque, de la route enroulée au flanc de ce gigantesque mamelon de Gneiss-Quartz, une colonne de poussière s'éleva tout à coup, et bientôt, agitant des fourches et des faux, une caravane de campagnards défila devant lui. « Ce loup-garou, on le tient, grondait-on, et on le voilà !» Le piéton, invectivé de la sorte, marchait, enchaîné, la corde au cou, entre deux gendarmes à cheval, le pistolet au poing et le sabre au clair. Rien ne fut extraordinaire que cette espèce d'homme, et l'on hésitait même à croire qu'il en fut un. Affublé d'une peau de bélier, dont la laine teinte en bleu lui collant au corps se mêlait à la toison de sa poitrine osseuse, et de choses ancrain tissées, sur lesquelles s'irritait sa chair gonflée, il portait en bandoulière, au bout d'une courroie et par-dessus sa seille, un assemblage de petits tuyaux en bois d'inégale longueur et munis d'anches métalliques. Sa structure encore plus insolite et plus sauvage que son accoutrement terrifiait. Au milieu d'une longue face blême et curviligne hérissée de poils drus et fauves, se divisant en deux touffes flasques, au-dessous d'un menton très bref, un grand nez brusqué s'étendait tout frémissant, à peine interrompu par d'épaisses lèvres bombées et recouvrant des dents convexes enchâssées dans de saignantes gencives. Ensuite, sous un béret béarnais, rouge écarlate, enveloppant un front fuyant, étoilé d'yeux glauques sans cils ni sourcils, pointaient, une de chaque côté, comme des cornes, deux protubérances s'effilant et saillant au-dessus d'étroites oreilles molles. Et ce bipède anormal aux bras rudimentaires, fort courts, et dont les narines secrétaient une bave visqueuse telle qu'il en jaillit du mufle des ruminants, cet être inouï, qui n'avait pas d'âge appréciable, perché sur deux jambes torses renflées aux jarrets, déprimé aux genoux et se terminant par des pieds beaux, fourchus, sans aucune apparence d'orteil, s'avançait avec l'allure d'un quadrupède dressé sur son train derrière et la hardière de cette bête entre toute sa lasse, le bouc. « Mais où diable ai-je déjà vu ce museau ?» murmura l'élève des premiers maîtres de l'époque, en l'art qu'il apprenait. « Mais où donc ?» À ce moment, le Sylvain tourna ses regards vitreux vers une blondine accroupie sur un morceau de grès, concassée à la lisière du chemin, et s'élança. N'eussent été ses liens fixés au pommeau des selles et qui le retinrent, il se fut abattu sur elle. Impuissant et presque étranglé, et de plus piqué par les bancals des cavaliers, il rugit, effrayant les chevaux, et formidablement bêla. « Lui-même, alors !» s'écria le paysagiste au paroxysme de la joie. « Oh, je me doutais un peu que je n'avais pas eu d'hallucination à la brune en forêt, il y a quelques semaines. » Un visionnaire, moi, jamais. Oh, sacre bleu! Mais c'est bien lui, mon Égypan. » Et tandis qu'on se racontait à l'envie comme quoi ce monstre rugueux et pileux, issu d'on ne sait quels êtres anthropomorphiques, avait été passé la nuit dans une carrière souterraine, en train de forcer deux fillettes aussi belles que le jour, il tailla vite ses crayons, et non loin de là, dans un bourg où l'on faisait halte, il croqua vivement ce dernier fils du dieu des bois, et ce sont ses notes rapides qui, plus tard, devaient lui fournir les principales lignes de son inoubliable tableau, connu dans le public artistique et littéraire, sous le nom dont est intitulé ce très véridique récit, que j'écrivis sous les yeux du peintre en face de sa magnifique toile, à laquelle il devra peut-être une immortalité plus durable que celle de feu Monsieur X et de tant d'autres académiciens si bien morts aujourd'hui que l'on ignore en France et même à Paris s'ils ont vécu. Septembre 1882.